suis qu'un petit commerçant au cœur du centre-ville. Je suis libraire, je suis fleuriste, café ou restaurant. Mes clients viennent me voir, je les connais souvent. Je les conseille, je les comprends, je suis essentiel, vous pouvez me croire, je suis essentiel, je suis essentiel, je suis essentiel.
Nous sommes le premier lundi du mois et comme tous les premiers lundis du mois sur Radio Campus 106,6, eh bien c'est l'heure de Tous Essentiels, l'émission du revenu de base présentée par Virginie. Bonjour Virginie, comment vas-tu ?
Ben
ça va bien, ben écoute, ça faisait longtemps, il était long cet été.
Mais cette rentrée est dynamique.
Ah ah !
Nous avons plein de super invités pour toute l'année pour vous montrer que un revenu de base est une bonne, un bon levier pour se libérer, pour se sécuriser, pour plein de choses.
Et tu as même réussi à trouver des invités capables de se lever un lundi matin comme ça.
Incroyable.
C'est fou ça, hein.
On accueille aujourd'hui Faustine Lamel. Faustine qui est conseillère d'opposition à Lille. Donc la ville de Lille, hein, une écoute nationale et à la métropole européenne de Lille toujours. Et elle est aussi coprésidente du groupe Lille Verte. Elle travaille dans tout ce qui est solidarité, cohésion des territoires, la participation citoyenne. Alors elle a un engagement auprès de Génération.S. On avait déjà reçu un adhérent de Génération pour nous parler du revenu universel d'existence. A été porté par Benoît Hamon. Donc là, elle va nous parler plus précisément de l'expérimentation de revenus à Lille, qui est dans leur programme depuis 6 ans, et qui est porté encore et toujours. Et donc, elle a même fait une proposition au conseil municipal en février 2023, en faisant allusion notamment à Stockholm, tu sais, la ville aux États-Unis qui l'a pris. Bon, le conseil municipal ne l'a pas. Comblé de louanges et de hurrahs, mais on continue à garder l'idée. Et tu sais qu'elle a été recrutée, en tout cas choisie, pour participer au Revenu de Base Awards. Tu te rends compte ? Alors on ne sait pas si elle va gagner, mais elle fait partie des quelques femmes qui représentent le revenu de base en France. Merci beaucoup d'être là, Faustine. Ben,
bonjour et merci beaucoup de m'avoir invitée. Quelle présentation, Virginie.
ça fait quand même quelques années qu'on se connaît et j'ai toujours été très touchée par non seulement par ton dynamisme, par le fait que tu es aussi très proche des gens. Voilà, tu es partout en fait et tu fais pas que serrer des mains. Enfin, les gens sont vraiment des gens face à toi et ça se voit. Tu te coltines aussi les questions pas très sexy comme la pauvreté, la misère ou aussi les maraudes. Enfin voilà, tu t'es vraiment sur le terrain et t'es pas seulement dans il faut réparer, il faut soigner là tout de suite maintenant, mais aussi dans un projet plus ambitieux et plus global en portant le revenu universel qui pourtant n'est pas très à la mode en ce moment.
Merci beaucoup. ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup toutes ces remarques et merci. Je reviendrai avec plaisir du coup.
Ouais.
oui, c'est pas des sujets faciles. Ceci dit, ils sont quand même essentiels. Et pour moi, c'est le cœur même d'un projet politique, notamment la lutte contre la pauvreté, qui pour moi est politique. On fait le choix aujourd'hui de tolérer qu'une partie de la population ne vive pas décemment et correctement. Et moi, ce choix de société ne me va pas. Et il est à l'origine de mon engagement politique. Donc je tiens fermement à ces questions-là et fermement aussi, effectivement, à échanger avec celles et ceux, malheureusement, qui la vivent trop durement aujourd'hui dans notre pays et puis à Lille de manière plus globale.
Et puis, on peut glisser aussi que tu as commencé à militer à 15 ans.
Oui, tout à fait.
Et
oui.
Tu en as combien aujourd'hui ?
Je ne sais pas si je peux le dire, je vais avoir 34 ans dans quelques jours. Oui, donc quasiment la moitié de ma vie, je l'ai passée à militer déjà. Mais oui, un engagement qui naît tôt. D'ailleurs, grâce à Nicolas Sarkozy, il aura fait une chose positive.
Merci Nico.
C'est me faire prendre ma carte dans un parti de gauche. Donc merci Nicolas, si tu nous écoutes.
Alors, je vais commencer par notre question rituelle pour rentrer dans la conversation du revenu de base. Donc imagine, à partir de demain, tous les mois, tu reçois suffisamment pour vivre. Ça tombe sur ton compte,
n'y a rien à faire. Et c'est jusqu'au bout de ta vie. Qu'est-ce que ça changerait pour toi ?
Ça changerait énormément de choses dans mon rapport au travail, parce qu'aujourd'hui, je suis engagée en politique, mais je le fais sur mon temps libre. Du coup, je me mettrais à mi-temps au maximum, je pense. J'aurais duré largement mon temps de travail pour pouvoir m'engager, mais aussi pour pouvoir faire des activités de loisirs, du sport notamment, avoir un peu plus accès à la culture. Je reprendrais la musique aussi, j'ai fait de la musique quand j'étais plus jeune, voilà, du piano, etc. Reprendre de la formation et puis voyager aussi. Découvrir d'autres pays, d'autres villes qui peut-être mettre en place le revenu universel, qui sait. Et oui, prendre du temps pour mes proches aussi. Le travail a envahi beaucoup la vie quotidienne, trop. Et c'est un sujet politique aussi d'ailleurs, mais au-delà de société, là aussi.
Et puis tu parlais en arrivant à Radio Campus, de rentrer dans cette espèce de... Oui, je sais pas, enfin, un campus, c'est plein de bâtiments, mais c'est aussi plein de gens qui apprennent. Et c'est, voilà, c'est la tentation d'apprendre plein de choses. Donc, disais, ah, j'aimerais bien avoir du temps.
Carrément.
Pour,
Carrément. Puis pour avoir des activités annexes, là, j'ai la chance cette année de donner des cours aussi à des jeunes de master, alors en tant que et fonctionnaire et élu local. Et j'y prends beaucoup de plaisir. Et c'est vraiment des choses que je pourrais faire beaucoup plus si je travaillais moins. Parce que là, c'est une autre forme de travail, mais que j'ai l'impression d'avoir plus choisi et de moins subir dans mon quotidien. J'en choisis les horaires. Et du coup, c'est bien le travail qui s'adapte et pas moi qui m'adapte au travail.
Merci beaucoup. Alors, donc toi, tu portes pas une version à proprement parler, puisque tu es dans Génération, donc on va parler de revenu universel d'existence, mais tu portes cette idée de faire une expérimentation à Lille. Donc déjà, première question, qu'est-ce que vous en attendez ? Parce que vous êtes plusieurs, hein,
ouais, tout à fait.
C'est toi qui porte-micro aujourd'hui, mais qu'est-ce que vous en attendez dans le cadre de Lille, d'une métropole qui est quand même... c'est 1 million d'habitants, la métropole ?
Oui, 1 200 000, c'est ça. Alors au niveau de Lille, on l'avait déjà porté en 2020, cette proposition d'expérimentation. Alors on est bien sur une expérimentation, parce que le niveau local, ce n'est pas l'échelle la plus pertinente en fait, pour le revenu universel. C'est bien au niveau national ou à minima départemental, mais qu'on porte aussi avec des collègues élus comme Laurent Perrin, tu en parlais tout à l'heure, au département, et nos députés aussi, bien évidemment. Mais alors, au niveau local, ce qu'on aimerait, c'est déjà... on n'a pas une forme de revenu universel déjà dessinée. Parce qu'on aimerait la travailler avec toutes les instances de démocratie participative qui peuvent exister à Lille. Les conseils de quartier, le conseil citoyen, le conseil de jeunes, le conseil municipal d'enfants aussi, pourquoi pas, parce qu'ils ont aussi leur mot à dire sur les politiques locales. Avec les associations d'aide aux plus précaires, on a déjà longuement échangé avec ATD Carmonde sur ce sujet-là, qui a déjà travaillé aussi de son côté. Avec le mouvement de français pour un revenu de base, bien évidemment, et qu'on travaille cette feuille de route au niveau local. Donc déjà, ça va nous prendre du temps de l'écrire, de la travailler en concertation pour faire cette expérimentation au niveau local. Alors, sur un échantillon d'habitants, a priori, en fonction des remontées aussi, on s'adaptera. Mais l'idée, c'est de voir aussi les effets au niveau local de cette expérimentation pour pouvoir le porter au niveau national. L'idée, c'est vraiment que Lille redevienne aussi ce laboratoire social ou de solidarité qu'elle a pu être par le passé et qui s'essouffle un petit peu ces dernières années.
Et du coup, qu'est-ce que... Alors évidemment, c'est difficile d'anticiper, mais... Voilà, on projette quand même, quand on fait une expérimentation, on en attend des choses. Il y a quand même une forme de promesse qu'on voudrait vérifier. Qu'est-ce que vous pouvez attendre d'expérimenter sur Lille ? Qu'est-ce que vous attendez à voir ? Qu'est-ce que vous espérez voir ?
Ce qu'on espère voir, c'est sur plusieurs catégories de population. La première, c'est les personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'est quand même 25% des habitants de la ville. Un quart, c'est énorme. C'est 10 points au-dessus de la moyenne nationale. Donc
on rappelle juste que le seuil de pauvreté...
Oui, il est aux alentours de 1 000, on va dire, 1 000 euros. Du coup, il y a cet enjeu-là sur la population la plus précaire, qui parfois travaille d'ailleurs, qui n'est pas toujours celle qu'on retrouve c'est ça, dans l'extrême pauvreté. Donc il y a cette population-là, il y a les populations les plus en difficulté qui sont dehors. Là, l'idée, c'est qu'ils puissent accéder à leurs droits, voir si ça a un effet aussi sur leur capacité à se loger, à se nourrir, à accéder, là aussi, hein, à du loisir. C'est pas réservé qu'à une élite, normalement. L'activité sportive, l'activité culturelle, aller au cinéma, aller de temps en temps, bah oui, au restaurant, se faire plaisir. C'est aussi voir quel levier ça a dans la vie. Et si ça leur permet d'avoir du temps, par exemple, pour à réfléchir pour certains qui aimeraient reprendre une formation, trouver un emploi qui leur correspond mieux, etc. Ça, c'est plutôt sur cette catégorie-là de population, c'est les leviers qu'on aimerait voir, en tout cas, et que les effets se fassent, en tout cas, c'est ce qu'on espère, visibles au bout d'un an d'expérimentation. De l'autre côté, il y a une population plus jeune qui va être soit celle des quartiers, soit celle des étudiants. Là aussi, on a plusieurs dizaines de milliers d'étudiants à Lille. Et moi, j'ai été concernée par ce cas-là, d'être obligée de travailler aussi à côté de ses études. Et donc là, pour nous, à Génération, un étudiant, son rôle et son but premier, c'est d'étudier, point. Et c'est pas d'aller chercher du travail pour se loger, pour se nourrir, pour faire ses études. Donc on va aussi regarder spécifiquement cette population-là et aussi des jeunes de quartier qui pourraient être décrocheurs, qui n'auraient pas eu la possibilité de suivre un parcours scolaire plus classique pour des milliards de raisons, voir les effets aussi que ça peut avoir chez eux en termes de raccrochage social, de raccrochage scolaire, pourquoi pas, mais pas forcément à la formation, à l'emploi ou à une activité bénévole. Enfin, voilà. L'idée, c'est de voir ces effets-là, principalement sur ces catégories-là, mais l'idée, c'est qu'il reste ouvert quand même, ce revenu universel.
Et avec aussi des indicateurs sur la santé mentale, ou est-ce que ça, on en parle beaucoup
Tout à fait, puis même dans l'accès aux soins, hein, parce qu'accéder à un psy, ça peut coûter cher aussi. Il y a des délais d'attente parfois qui sont extrêmement longs. Mais oui, c'est le revenu universel, c'est vraiment renverser la manière dont on réfléchit aujourd'hui, où en fait le travail... et j'ai eu des échanges il n'y a pas très longtemps avec France Travail et d'autres institutions, où c'est vraiment central... dans la vie, mais y compris pour les travailleurs sociaux qui ont vraiment ce biais-là parfois d'orienter seulement vers le travail. Mais on peut être heureux sans travailler. C'est tout à fait possible. On peut être heureux en travaillant à temps partiel. On peut être heureux en faisant d'autres activités. Et nous, c'est ça qu'on propose, en fait. C'est OK, le travail, évidemment, c'est nécessaire, etc. Mais il faut qu'il reste choisi et pas subi. Et au-delà de ça, sur les questions de santé mentale, tu as raison, qu'on reprenne un peu goût. Et on retrouve du sens aussi à nos activités quotidiennes.
Oui, ça rejoint l'idée... Là, quand tu dis travail, en fait, ça veut dire emploi.
C'est ça, oui.
Voilà. Et effectivement, quand tu dis activité, c'est aussi du travail. Tu l'as dit tout à l'heure. En fait, la plupart de nos activités sont du travail et même peuvent être dans un autre cadre rémunéré, etc. Donc on voit bien qu'il y a une porosité entre les deux et ce biais de considérer que tout travail, que le travail c'est forcément par l'emploi, que la participation au collectif, parce qu'en fait c'est ça qui est derrière, c'est comment est-ce qu'individuellement on participe à hauteur de nos capacités, évidemment, enfin, évidemment non, mais c'est plus évident, mais que comment on participe au collectif. Qu'il y a multiples façons de le faire et que déjà prendre soin de soi, ou comme tu disais, culturellement, sportivement, etc., c'est aussi participer au collectif, ne serait-ce que parce qu'on coûte moins à la société en termes de troubles mentaux ou maladies physiques. Mais
complètement. Puis il n'y a pas très longtemps, j'ai rencontré le cas d'une dame qui avait des enfants en bas âge et où en fait elle est pressée, parce que maintenant avec le RSA, il y a une contrepartie qui est demandée. Donc c'était une dame qui était au RSA qui élevait ses enfants seule. On lui demande cette contrepartie, mais comment elle fait ? Enfin, il y a aussi, quand on a des enfants en bas âge, il faut payer la crèche. Avec un RSA, il faut aussi m'expliquer comment ces gens en font. Et elle se retrouve dans une situation un peu inextricable où, en même temps, elle a cet impératif d'être en activité de la part des institutions diverses. Et en même temps, la réalité de ses moyens financiers. Donc, ça pourrait aussi peut-être permettre de reposer les choses, d'apaiser un peu aussi des situations. Enfin, par ailleurs, cette contrepartie d'activité pour le RSA, pour ma part, j'y suis défavorable complètement. Et en même temps, on peut aussi se dire que si parfois on a envie de prendre le temps dans sa vie, à des périodes, on a envie de là, l'occurrence, elle voulait prendre soin de ses enfants, etc. Pour elle, les laisser à la crèche, c'était aussi difficile parce que c'est ses premiers, etc. Donc ça s'entend aussi. Et là, il y avait un discours, en tout cas de ce qu'elle me renvoyait, très moralisateur de l'institution, qui lui dit en fait, si tu n'as pas d'emploi, effectivement, j'ai confondu les deux dans mon langage,
oui,
et tu as bien fait de me corriger, mais si tu n'as pas d'emploi, notamment salarié, ben, tu ne sers à rien dans la société. Et c'est assez violent, en fait, comme discours.
D'autant que alors là, c'est une situation particulière, parce qu'il pourrait y avoir des personnes pour lesquelles on pourrait avoir le même discours qui n'ont pas, entre guillemets, la justification d'avoir des enfants en bas âge. Mais là, en plus, en quelque sorte, elle élève ceux qui vont payer notre retraite. Donc, ne serait-ce que pour ça, c'est un peu utile si vraiment il fallait parler en termes de mérite. Donc, on voit qu'on est dans une société qui prône le mérite, mais qui ne l'applique pas vraiment, qui fait la morale, mais... une morale immorale, enfin c'est complètement...
Et encore, qui fait la morale à une partie de la population qui est obligée d'avoir un emploi pour vivre. Parce qu'il y a des bien plus riches que nous qui ne travaillent pas et à qui on ne fait pas la morale. Et qui d'ailleurs contribuent très, très peu au budget national et à l'imposition nationale, à la solidarité nationale finalement. Donc on fait toujours la morale quand même aux mêmes. Mmh. Et c'est à ceux finalement qui n'ont pas le choix, ils n'ont pas le choix de leur logement, ils n'ont pas le choix de leur alimentation, pas le choix de leur travail, de leur emploi. Et c'est pas trop, pour ma part, le monde ou la société dont je rêve, clairement.
Je sais que tu suis aussi justement les non-recours, etc. Ouais. Et par rapport à cette conditionnalité du RSA, puisque le Nord, on a été malheureusement, parce qu'il y a la droite à la tête, on a été précurseur aussi là-dedans, donc on a un peu de recul sur les effets. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur cette surconditionnalité du RSA, ou de ce que t'en vois, les effets
De ce que j'en vois, c'est... déjà, il y a toute une partie, tu le disais, du RSA qui n'est pas demandée. Donc, il y a une partie des gens qui échappent à leurs droits. Ça vient créer un frein supplémentaire. Et j'ai déjà eu en échange, notamment en porte-à-porte, quelqu'un qui m'a dit qu'il ne réclamerait pas ses aides auxquelles il a droit parce que les conditions lui font peur. Il ne les connaissait pas, etc. Donc, déjà, ça éloigne encore un peu plus ceux qui ont droit aux aides sociales. Et de l'autre côté, il y a quand même une grande hypocrisie de l'administration, parce que derrière tout ça, c'est aussi du travail supplémentaire pour les agents du département, etc. Et finalement, je crois même savoir que des fois, ils sont obligés de s'adoucir. Alors, ce n'est pas le message politique qu'ils véhiculent, mais finalement, c'est pas, dans le suivi, ça laisse aussi à désirer. Et au final, les effets en termes d'insertion à l'emploi de cette mesure-là, alors, je ne les connais pas dans les chiffres, mais j'en doute fortement que c'est eu quelques effets levier que ce soit, notamment sur de l'emploi durable. Parce que là, du coup, on va se tourner vers des emplois précaires, l'intérim, etc. OK, mais sur les effets à long terme, je m'interroge fortement.
Et puis, rien que dans l'idée, ça reste de l'esclavage, puisqu'on fait travailler des gens qu'on ne paye pas et qui prennent, entre guillemets, là, pour le coup, vraiment le boulot d'autres, parce que s'il y a des tâches à faire, elles peuvent être rémunérées. Et des personnes qui, du coup, amèneraient une cotisation sociale à l'État, c'est complètement aberrant.
Non, ça n'a aucun sens.
Si ce n'est pour nous mener les uns contre les autres et diviser encore plus, fractionner encore plus la société. Et
puis c'est quand même un retour aussi en arrière sur la conditionnalité des aides sociales. Enfin... Voilà, il y a quand même ce sujet-là aussi d'inconditionnalité de l'aide qui, pour moi, est aussi portée à travers le revenu universel.
Merci. Une petite pause, Max.
Baby.
Parce que là, ça chauffe, ça réfléchit, ça change le monde.
Écoute, je proposais une petite chanson qui s'appelle Neuilly. Et je crois qu'elle est vaguement en l'honneur d'un célèbre Nicolas.
Non.
Mais si. Allez, écoute, il paraît qu'il y a des Nicolas. Et qu'enfin, Nicolas paye. Tu vois, c'est le... Ben oui, on l'attendait depuis longtemps, mais voilà, enfin, ça arrive. C'est Merlot, sur les ondes de Radio Campus 106,6.
Neuilly, Neuilly, oh, Neuilly, Neuilly. Petit coin de paradis. Neuilly, oh Neuilly, Neuilly. Il y a une bombe nucléaire sous tes jolis parterres fleuris. Fleuri. Neuilly, Neuilly, j'ai déposé une gerbe sur les marches de ta mairie. Si J. Neuilly, étranger dans ton pays. Neuilly, je te bannis, je te déclare la guerre, je te maudis. Neuilly. Neuilly. Neuilly.
c'est ta chanson. Neuilly, tu sais, tu devrais faire attention. Y'a le feu dans les corons. Si tu savais ce que signifie ton nom. Neuilly, tu nous fais péter les plombs. Y'a de la lumière au château. Quelles sont les nouvelles du ghetto? Je vois au loin qui viennent les requins des Hauts-de-Seine. Dis-moi ce qui se passe. C'est la lutte des classes. Neuilly, Neuilly. Oh, Neuilly. Atmosphère venant des hautes sphères de ce pays. Neuilly, la révolution, c'est fini. Tu paries.
Et ben voilà, c'était Merleau sur les ondes de Radio Campus. Et vous êtes toujours à l'écoute de Tous Essentiels, l'émission du revenu de base, tous les premiers lundis avec Virginie.
Et Max, bien sûr,
ah oui.
À la technique et à la musique. Aujourd'hui, on reçoit Faustine, notamment par rapport à une expérimentation sur l'île. Donc, on en était à voilà, toutes les attentes et les différents publics que vous visez en priorité. Mais aussi, ça serait intéressant, même si donc je renvoie nos auditeurs, si ça les intéresse, on a déjà eu une émission sur une expérimentation à Grande-Synthe, qui est aussi dans le Nord, avec Clément Caillol, qui a porté une thèse et un travail là-dessus, qui nous a déjà parlé des limites. Tu le disais déjà au début, le niveau administratif et financier, selon les compétences d'une mairie, n'est pas l'idéal pour financer un revenu de base. Et en même temps, comme c'est le premier niveau démocratique, voilà, c'est un levier. Mais comme la situation de Grande-Synthe, qui a quand même beaucoup d'argent, parce qu'il y a Total, etc., dans le coin, et la situation de Lille, qui a quand même beaucoup d'habitants, c'est pas du tout pareil. Donc, est-ce que tu peux nous évoquer un peu comment, alors, en tout cas, les travaux préliminaires, puisqu'on n'en est pas encore à l'expérimentation, on verra si elle sera proposée aux prochaines municipales. En tout cas, j'invite tous les Lillois à s'y pencher, mais voilà, du coup, comment est-ce qu'on peut approcher une ville comme Lille à travers cette envie de faire une expérimentation, parce que j'imagine que tous les Lillois, c'est pas possible à 1000 euros par mois.
Non.
Ça, faut se le dire, effectivement. Alors, des fois, on est souvent à génération très mal compris sur cette proposition, donc non, ce ne sera pas possible, malheureusement. Mais en tout cas, on peut réfléchir à des modèles pour qu'ensuite ils essaiment ou alors qu'ils essaiment même au niveau national. Sur l'expérimentation locale, effectivement, première limite, ce sera le nombre de personnes concernées. Ça, c'est clair. Là, sur une hypothèse à 200 habitants, ce qui est une toute petite expérimentation à la taille de Lille, qui est de 230 000 habitants, on serait sur du 2,5 millions déjà, budgétairement parlant, sans compter les frais de personnel, etc. Donc c'est un budget qui serait conséquent. Toutefois, rapporté à l'échelle de la ville, c'est 460 millions d'euros, le budget de la ville. Bon, voilà. C'est pas non plus infaisable, budgétairement parlant. Ce qu'on propose dans un premier temps, à la ville, il y a un conseil communal d'action sociale, le CCS, qui porte déjà des aides de solidarité. On propose quand même de les regarder de plus près, de regarder les effets qu'elles ont, parce que des fois, on a des soutiens financiers, mais qui sont très faibles. Et donc, dans les effets derrière, on peut s'interroger si ça a vraiment un effet dans la vie quotidienne. Bon, à voir. Déjà, peut-être remettre à plat les aides sociales du CCS. Et puis oui, après, il faudra faire des choix. Nous, il y a des choix en termes de sécurité, par exemple, à Lille, qui nous posent question. Alors, on ne dit pas qu'il ne faut pas de sécurité ou qu'il ne faut pas d'action de tranquillité publique. Bien au contraire. Mais est-ce qu'acheter des caméras qui coûtent extrêmement cher et qui n'ont pas d'effet réel, et ça, c'est prouvé par toutes les études qui sortent sur le sujet, sont nécessaires? Bon. Donc nous, on proposera de stopper, en tout cas, cette dépense-là en termes d'achat de caméras, tout en laissant évidemment un dispositif de sûreté publique, mais peut-être de s'interroger aussi sur l'orientation des fonds publics et des choix politiques qui seront à faire. En tout cas, si on part sur ces 200 habitants, admettons, c'est à peu près budgétairement ce qu'il nous faudra. Après, en fonction de ce qui ressortira de la concertation, on s'adaptera. Si le budget il n'est pas aussi élevé, malheureusement, on restreindra soit l'enveloppe, parce que là, c'était sur du 1 000 euros par mois, cette expérimentation-là.
Pendant un an, du coup.
Pendant un an, ouais, c'est ça. Donc, est-ce que, du coup, on réduit cette enveloppe ? Est-ce qu'on réduit le montant du revenu universel ? Est-ce qu'on réduit le nombre d'habitants ? Voilà, tout ça, ce sera à travailler avec les habitants, les associations locales et aussi les universitaires. Parce que j'aimerais qu'on soit suivi aussi par des universitaires sur le sujet pour avoir une analyse tout au long de cette expérimentation et surtout un recul, on va dire, neutre sur notre expérimentation.
Comme un comité scientifique.
Exactement, ou... oui, tout à fait. Donc, ça serait intéressant de travailler avec des universitaires, pas que lillois, mais pourquoi pas, évidemment, de l'Université de Lille, sur ce sujet de l'expérimentation.
Merci. Est-ce que vous avez déjà réfléchi au type d'indicateur qui pourrait... au niveau d'une ville, là, pour le coup, l'avantage, c'est que c'est quand même assez circonscrit. Donc, il y a sans doute déjà des chiffres ou des études ou...
Ce qui nous intéresse aussi, c'est les retombées sur le commerce local, évidemment. Après, sur une vision plus globale, on aimerait aussi adosser ça à une monnaie locale au niveau de la ville. Bon, ça, c'est encore une autre proposition, un autre projet pour ancrer encore plus cette réflexion-là sur le local. Mais en tout cas, c'est les retombées et pour le commerce local dans son ensemble. Ça va être aussi intéressant de voir où les gens consomment. Parce que est-ce que c'est à la petite épicerie locale du quartier ou est-ce que c'est malheureusement dans les grandes enseignes aussi qui nous facilitent la vie tous les jours mais qui nous vendent des produits pas toujours très propres ni économiquement, ni socialement, ni environnementalement en parlant. Donc là aussi ça va être intéressant pour nous de voir comment consomment aussi les habitants sur l'aspect très économique et puis après les retombées en termes de un peu ce qu'on disait tout à l'heure auprès des associations lilloises parce qu'il y a des choses qui ne sont pas quantifiables. Mais s'il y a reprise de bénévolat, ben voilà, concrètement, ça se traduit par combien d'heures ou quelle a été l'action. Ça peut se traduire aussi par une reprise d'activité, quelle qu'elle soit, ou comment, et puis sur les bienfaits. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on s'entoure de scientifiques, y compris, et tu le disais, sur la santé mentale aussi, pour avoir ce suivi-là. Donc les habitants qui en bénéficieront devront quand même aussi... nous faire part de ces retours-là. Donc il faut être prêt aussi à nous communiquer auprès de la mairie, en tout cas si cette proposition est validée, certains éléments aussi de leur part, sous forme de questionnaires, d'enquêtes, etc. Bien évidemment, on ne va pas aller regarder le compte en banque de la personne, ça ne nous regarde pas. Mais en tout cas, sur les effets induits pour la ville, c'est là où ce sera intéressant de voir avec ces petites enquêtes, ces petits entretiens, ce que ça devient.
Ça m'évoque pas mal de choses parce qu'effectivement, au niveau municipal, il y a déjà plein de tentatives partout dans le monde. Oui. Mais en tout cas, les deux grandes villes du Canada, Manitoba et Dauphine, ont fait un énorme travail justement avec des questionnaires. D'ailleurs, ils n'ont pas fini de les étudier. Mais effectivement, qui montrent que, par exemple, les gens se sentent beaucoup mieux, qu'il y a moins de violence, même dans la famille ou en violence conjugale, qu'il y a moins d'accidents du travail, etc. Et tout ça, ils le savent grâce aux indicateurs, comme tu disais, typiquement des médecins ou même de l'hôpital, etc. À Lyon, ils font aussi une expérimentation, mais qui est ciblée sur les jeunes. Avec les mêmes limites d'une municipalité, ils ont dû cibler. Et alors à Toulouse, ils bossent beaucoup avec l'abonné local qui est assez active. Et pas loin, dans le Lot-et-Garonne, il y a Terra, qui a aussi un gros. On en a parlé dans une autre émission, un comité scientifique régional. Et ici maintenant, alors ils sont centrés plutôt vers le rural, comment redynamiser le rural. Donc c'est évidemment pas complètement transférable, mais comme tu disais, c'est grâce à une monnaie locale qu'ils réussissent à revitaliser tout un territoire. Et
ça serait le must, mais ça va nous demander quelques années de préparation quand même si on l'adosse à une monnaie locale. Et ça serait vraiment, pour moi, l'hypothèse la meilleure, en fait, qu'on paye ce revenu universel en monnaie locale, avec un partenariat avec les commerces locaux, les associations, etc., pour qu'on soit sûr, entre guillemets, que ça retombe aussi auprès du territoire. Ça n'empêcherait pas l'achat de... Voilà, parce qu'effectivement, on peut aussi avoir des personnes qui ont envie d'acheter du matériel informatique. Ou, c'est aussi ça, de voir dans l'équipement aussi, est-ce qu'il y a du gain en confort. Enfin, moi, ça me traumatise pas non plus qu'il y ait accès du Wi-Fi, de l'informatique, du numérique, etc. C'est pas là aussi réservé forcément à une élite. Un smartphone aujourd'hui, ça coûte super cher, ça coûte le prix d'un RSA quasiment, si vous allez sur du moyen de gamme. Et parfois, c'est nécessaire pour le travail. Donc, c'est aussi voir ces effets-là. Est-ce que, en termes d'équipement, en termes de... Voilà, c'est aussi mesurer tout ça dans le confort d'une famille, d'une personne, d'un étudiant, aussi, par exemple.
Et en Corée, mais ils l'ont fait sur toute une région, ils ont ciblé les jeunes à qui ils ont donné une monnaie locale. Effectivement, ça a reboosté toute une région parce que les petits commerces en ont bénéficié. Mais à Toulouse, ils font ça et ça a l'air assez efficace. Ils passent par les aides aux plus précaires, entre guillemets, et il y a une partie qui est donnée en monnaie locale, mais du coup ciblée dans certains commerces de la ville, etc. Enfin,
bah oui, ça serait super que ça fonctionne comme ça, complètement. Et puis on montrait aussi que ça a un intérêt au niveau local, parce que souvent, là-dessus, on est gentiment moqué ou gentiment décrédibilisé avec cette proposition-là. Moi, je le regrette, parce que c'est aussi... dans les belles histoires du municipalisme, du socialisme du municipal également, qu'on a écrit les grandes innovations sociales du pays. Et je pense que nos villes, elles doivent redevenir des lieux de proposition, d'innovation, un revenu universel, en tout cas son expérimentation au niveau local. C'est possible. Et on peut le faire à Lille.
Ça donne envie. Bon, alors du coup, tu parlais aussi des réactions... les réactions des habitants par rapport à l'idée, les réactions des élus, les réactions des différents partenaires. Sans forcément stigmatiser l'un ou l'autre, mais est-ce qu'il y a des tendances de réaction plutôt pour, plutôt contre
Globalement, en 2023, j'avais porté un vœu du coup, au conseil municipal de Lille pour mettre en place cette expérimentation. Et la majorité actuelle, du coup, socialiste notamment, l'avait refusé. En même temps, et je comprends, ils ont souligné les limites que j'entends tout à fait. Mais d'un autre côté, ils l'ont porté aussi avec un candidat qui s'appelait Benoît Hamon en 2017 au niveau national. Donc voilà, là, pareil, sur les contradictions potentielles sur le sujet, bon, voilà. On n'a pas toujours une grande écoute, en tout cas au niveau local de la majorité en place sur le sujet. On en a plus une quand même avec toute une partie de l'échelon politique, écologiste notamment, qui est assez ouvert quand même à cette proposition-là. C'est pas les seuls, mais qui sont ouverts à cette proposition-là. Des associations aussi, notamment les associations qui travaillent avec des personnes en grande précarité. C'était d'ailleurs ressorti, la ville a fait un plan de lutte contre les exclusions, qu'elle a travaillé avec des habitants et des associations. Et j'y ai assisté en tant que conseillère municipale, mais généralement j'évite de prendre la parole dans des temps de concertation avec des habitants ou des assos, parce que j'estime que c'est pas le moment pour moi de m'exprimer politiquement. Et la proposition, en fait, est venue de la part d'associations et d'habitants, sans que je n'ai rien dit. Et donc je me dis qu'il n'y a pas que nous qui y pensons, et qu'il y a plein d'autres structures ou acteurs locaux qui attendent aussi de la part du politique des choses nouvelles et des choses pour aller plus loin dans la lutte contre la pauvreté notamment. Et ça m'a fait quand même sourire et plaisir de voir que des acteurs locaux portaient aussi cette proposition-là.
Ça avance.
Ça avance, mais ça a été malheureusement balayé d'un revers de main. Mais c'était une première, finalement, ça fait deux fois qu'on parle de ce sujet-là au niveau municipal. Jamais 203, et s'il faut, il y en aurait 4, 5, 10, 25, jusqu'à ce qu'on expérimente ce revenu universel dans la ville.
J'ai le souvenir d'avoir croisé Martine Aubry une fois sur la braderie de Lille, où on tenait un stand à côté du Café Citoyen, rue du Vieux-Marché, de la Place aux Chevaux, si certains veulent y aller. Et en fait, peut-être... Je l'abordais en tant que dame des 35 heures en lui disant que elle pouvait porter une autre innovation. Non. Mais en tout cas, ça l'a pas enthousiasmé.
Qu'est-ce qu'elle ferait avec un revenu de base?
Non. Je lui ai demandé directement de le porter. C'était peut-être un peu trop direct, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'était pas dans son agenda visiblement. Mais c'est vrai qu'on continue. Alors je autre petite information, puisque sur l'île, le groupe local du mouvement français pour le revenu de base s'est institué en association maintenant. Et donc, on s'appelle Prune pour un revenu universel Nord. Et on continue à diffuser, à interpeller, aux braderies, au forum des assos, etc. Et on rencontre plein de gens. Alors, les plus jeunes ne le connaissent pas. Ils n'ont pas eu la campagne amont, qui commence c'est déjà vrai. À dater. Y a pas, ça ne rajeunit pas. Ouais, mais donc voilà, il faut garder ça en tête. Mais ou même dans les manifs, on en a eu quelques-unes ces derniers temps. Je ne rencontre plus d'opposition à l'idée. Il y a des questions, mais la première réaction à la fameuse question, imaginez, c'est toujours « Ah, bah oui, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. » Enfin, voilà, c'est toujours une ouverture, c'est un soulagement, c'est... c'est le soupir et la première réaction, c'est une détente d'abord. Et après, il peut y avoir des questions, après, il peut y avoir des références. Après, ça dépend des versions. À gauche, on va plutôt trouver la version de Bernard Friot avec le salaire à vie, qui fait son chemin dans la CGT, chez LFI, etc. Chez les républicains, les vrais, je veux dire, hein, pas les faux ultra-libéraux d'extrême droite, mais chez les vrais républicains, il y a toujours la version du libère qui traîne, qui n'est pas suffisante pour vivre, mais qui serait déjà un premier pas. Donc voilà, donc, l'idée est là, mais pour l'instant, si jamais, sache oui. qu'au MFRB, on est en train de construire un rapport qu'on appelle le rapport quinquin pour un revenu de base en un quinquennat et qui fleurira en 2026 et qu'on proposera aux candidats.
Avec plaisir pour le porter, en tout cas, nous, de notre côté, à Génération, parce que là, on parle aussi de ceux qui en ont besoin. Mais il y a ceux qui ont aussi besoin de contribuer à cette création de l'enveloppe du revenu universel. Au niveau local, c'est pas parce qu'on l'essaye, qu'on va l'expérimenter à Lille que le département ne peut pas participer financièrement et que l'État ne peut pas participer financièrement. Bien évidemment, on ira chercher les acteurs aussi, d'ailleurs compétents normalement sur le sujet, pour faire avec nous. Mmh. Mais s'ils ne veulent pas le faire, nous, on propose quand même de faire cette expérimentation-là. Évidemment, c'est mieux s'ils sont avec nous, y compris financièrement, bien évidemment. Mais après, de la même manière, au niveau national, et là, on en parle de plus en plus, et tant mieux, d'aller aussi taxer les plus riches d'entre nous, les fameux 1800 foyers qui ne contribuent pas assez au budget national. Donc, il y a quand même aussi un sujet de justice dans tout ça et d'égalité aussi et devant l'impôt, mais aussi devant les aides que l'on perçoit les uns et les autres. Donc c'est aussi à... Évidemment, il y a le verre qui verse, mais il y a aussi le verre qui reçoit. Mmh. D'ailleurs, il y a un millionnaire, il n'y a pas très longtemps, qui a dit... Il est multimillionnaire. Et il disait que même lui, s'il donnait 1 million d'euros à tous les Français, il lui resterait encore 500 millions d'euros pour vivre tranquillement jusqu'à la fin de sa vie. Donc, on a de quoi faire un revenu universel.
Alors là, c'est moi qui ai le soupir, là.
Non, mais vraiment, donc même eux réclament, en tout cas une partie d'entre eux réclament de se faire taxer, parce que déjà, on est dans l'indécence aussi. Aujourd'hui, face à des très, 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 très pauvres et des extrêmement riches, au niveau national en tout cas. Et puis en plus, même une partie de la classe aisée qui réclame même une juste rétribution. Et tant mieux et bienvenue dans le combat. Mais là, ça devient une urgence sociale, cette question-là, et une urgence même démocratique, je dirais, d'aller au-delà sur la taxation des revenus les plus élevés.
On pourrait peut-être lui proposer de donner 1 million, mais sous forme de revenus de base, 1 000 euros par mois. Ça, on aurait une expérimentation au niveau national et ça m'irait très bien.
C'est clair, j'ai oublié son nom, j'irai vérifier, c'est Eric son prénom, je me rappelle.
Oui, et puis c'était une boulette, hein, parce qu'en fait, forcément, si tu as plusieurs centaines de millions, mais que tu donnes 1 million à 60 ou 70 millions... Le compte n'y est pas à la fin. Non ?
Ça fait 70 millions.
Et 70 millions fois 1 million. On est à plusieurs trillions.
Oh là là.
Oui,
effectivement.
Ouais, effectivement, il ne faut pas que ce soit du mensuel.
Il y a une question d'échelle.
C'est ça. Oui, d'accord. Mais bon, il pourrait quand même financer quelque chose, quoi, a priori.
Oui, bon, alors on peut toujours lui demander. Hein.
Bah, en tout cas, tout à fait.
Quoi, s'il propose de donner 1 million à chaque Français, il ne faut pas qu'il hésite, je pense. Il sera bien reçu
oui, par oui. les uns et les autres. Même 1 million, déjà, on veut bien commencer par ça.
Il y avait une proposition qui était rigolote aussi, c'était d'imaginer que Bernard Arnault, en tant qu'originaire de Roubaix, pouvait donner 1% de sa fortune à la ville de Roubaix. Tu vois ? Et rien que ça.
Déjà, il ne veut pas donner 2% à l'État.
La ville la plus riche de France. Tu vois, ça ne tient à pas grand-chose.
C'est clair, ça ne tient à pas grand-chose.
Alors, je te rejoins sur le côté démocratique. Alors, les inégalités sociales qui explosent, qui se polarisent, ça crée aussi une polarisation. Je veux dire, entre nous, entre les 98% de la société. Et il y a une émission de Blast qui date de quelques jours qui parle justement des grands patrons et globalement des plutôt grands patrons. Là, on ne parle pas de l'artisan ou du commerçant du coin, qui sont de plus en plus à droite, extrême droite ou extrême droite de l'extrême droite. Et qu'il y a quasiment plus ces riches de gauche qui étaient prêts quand même à reconnaître que ils sont pas issus de la cuisse de Jupiter, que soit ils ont hérité d'hérité, mais en tout cas c'est aussi grâce à tous les gens qui travaillent encore pour eux, qui ont travaillé pour leur famille, à l'état social qui a permis que ces gens soient en bonne santé, bien éduqués, etc.
Oui, à l'école de la République, c'est clair. C'est pour ça que aujourd'hui, quand on les voit ne pas vouloir contribuer, c'est quand même juste inentendable. Mmh. En proportion, sur leurs revenus, ils participent moins que vous et moi, on part. C'est quand oui. même incroyable qu'on en arrive là
aujourd'hui. Alors
qu'ils
ont plein de niches fiscales, parce que ça, on n'en parle pas, mais l'État leur donne de l'argent à travers oui. les niches fiscales, quand ce n'est pas à travers leurs entreprises.
Et puis, aujourd'hui, la richesse, aujourd'hui, alors ce n'est pas nouveau non plus, mais donne du pouvoir politique. Enfin, quand on voit que Bolloré continue, la souhaite, et d'ailleurs, une petite pensée aux journalistes du Parisien qui sont en lutte en ce moment aussi pour ne pas qu'ils rachètent leur journal. Enfin, ils font de la politique, ces gens-là, pour leur camp, et pour leurs finances, bien sûr. Donc, il y a quand même un enjeu de rétablissement de la balance. Et le revenu universel, il viendrait aussi comme un rétablissement. Alors, du bas vers le haut, on donne à tout le monde pour que tout le monde soit à égalité face aux revenus. Mais il viendrait aussi, en tout cas sur les aspects d'égalité fiscale, évidemment taxer par le haut aussi les plus riches du pays. Ça, on ne peut pas l'appliquer au niveau local, malheureusement.
S'ils veulent partir, qu'ils partent. Hein. On reprend leurs entreprises, pas,
ils partiront pas. Ils partiront pas. Et d'ailleurs, il y a des études qui le montrent très bien. Et ça aussi, on le redécouvre aujourd'hui. Mais je me souviens d'une étude du Figaro, il y a déjà 10 ou 15 ans, qui disait déjà qu'en fait, c'est moins de 1% les personnes les plus riches qui, taxées, partiraient. Bah oui, parce qu'elles ont leur vie en France, parce qu'elles ont, et tu l'as très bien dit, la sécurité sociale, les écoles, etc. Qu'elles ont leur famille, accessoirement. Et que non, elles ne partent pas. Et ça, on le sait. Donc, certains médias et la droite s'amusent à répéter un mensonge, mais ça reste un mensonge.
Il y en a qui vont partir un petit peu, hein, jusqu'à ce que la maladie les rattrape.
Oui.
Je ne vise personne. Quand même. D'ailleurs, une petite pause musicale.
Oui.
Alors, l'argent ne fait pas le bonheur.
Voilà. Ah bon ?
C'est les Parisiennes qui le disent.
Non.
Je t'assure.
Pas la bonne.
Youpi! Bah oui, l'argent fait pas le bonheur, mais bon, quand même, hein, si vous en avez trop, n'hésitez pas.
Donc, on prend hein, tous les dons, si vous voulez. Peut-être Radio Campus, je ne sais pas si Radio Campus reçoit des dons.
Ah, mais Radio Campus reçoit des dons, défiscalisables, comme toute bonne association qui se respecte, hein, tout à fait. Tout
c'est
à
une
fait.
Niche fiscale.
Bah, on peut voir ça comme ça, bon, je pense qu'on peut trouver c'est mieux, mais bon, voilà. Hein.
Balzac disait, parce que pour écrire ses livres, il a toujours été en déficit. Voilà, c'était pas un bon comptable, c'est un physionomiste et un psychologue extraordinaire, un écrivain super. Mais il disait qu'être redevable, donc avoir des dettes envers des riches, c'était une façon de réduire les inégalités. Finalement, c'était une justice. Donc voilà, bon. On en revient du coup, Faustine, parce que là c'est le projet, on a entendu ses attentes, les pistes en tout cas à travailler avec les partenaires, qu'ils soient politiques, associatifs,
universitaires
et les habitants eux-mêmes. Est-ce que tu vois quand même des plus petits pas à partir de maintenant et des échéances?
Oui, déjà, c'est de continuer à en parler. Donc nous, on profite à Génération des échéances électorales, mais en vrai, on en parle tout le temps, puisque c'est au cœur quand même de notre pensée globale. C'est un peu une manière de, on le disait tout à l'heure, de renverser aussi certains regards sur la société, sur la pauvreté. Donc déjà, on continue à en parler, on continue à militer pour, on continue évidemment à en parler en porte-à-porte. Donc déjà, il y a cet aspect un peu de ne pas le faire oublier aussi. Tu disais que les plus jeunes, ils n'avaient pas connu la campagne de Benoît Hamon et du coup du revenu universel qui avait été fortement mis sur le devant de la scène. Donc nous, en tant que parti politique créé par Benoît Hamon, on continue à porter ça et à tout faire pour que ça ne se fasse pas oublier. Donc on continue à déjà en parler et c'est déjà un petit pas. L'autre petit pas, c'est... nos partenaires politiques, là, sur un volet plus militant, du coup. Mais effectivement, avec les échéances qui s'annoncent, notamment les municipales, de convaincre nos partenaires politiques. Alors là, je m'adresse surtout à la gauche, évidemment, mais que c'est possible sur une expérimentation locale et là aussi de le porter dans un programme collectif. On vient de le faire, là, d'ailleurs, avec l'APRE, qui est le parti d'Alexis Corbière, de Clémentine Autain, etc. Et Debout, qui est le parti de François Ruffin au niveau local. Donc, c'est dans notre programme aussi. D'ailleurs, l'APRE porte aussi d'autres idées comme ça d'expérimentation sur une allocation d'autonomie, mais qui viserait plus les jeunes, etc. Donc, on continue à essaimer. Et finalement, entre nous, à gauche, on est assez d'accord sur le sujet quand même, quand on en parle, en tout cas de la question de la lutte contre la pauvreté. Donc là, nous, on est heureux déjà que ce soit porté dans ce programme commun à trois partis politiques. Et puis, on espère que ça s'élargira et que ça fera des petits chez les partis les plus grands pour continuer à faire parler du revenu universel et surtout à rendre réelle cette expérimentation dans un programme politique et pourquoi pas demain à la mairie.
Donc à la mairie, pour les municipales et puis pour les présidentielles. Donc je parlais du projet Quinquin que nous on va porter. Il y a aussi, on voit dans les syndicats, à travers les manifs, et nous aussi on fait en tant qu'associatif, ce travail de sensibilisation. C'est même pas sensibilisation parce qu'en fait les gens... juste ne connaissent pas. Quand ils connaissent, ils aiment. Donc en fait, c'est juste bien leur sûr. Faire connaître, mais c'est impressionnant. Puis comme il y a quand même pas mal de versions possibles, entre toutes les versions, ils peuvent s'y retrouver. La gauche qu'on appelle aujourd'hui extrême ou ultra, qui en fait correspond à peine au programme de Mitterrand en 81, qu'on pourrait appeler LFI, qui s'appelle LFI et qu'on appelle autrement, mais qui est pas plus ambitieuse que le PS en 81, eux sont vont plutôt aller vers une version plus radicale avec reprise des moyens de production, etc., de Bernard Friot à travers le salaire à vie. Et même chez les vrais républicains, c'est-à-dire les républicains type De Gaulle, pas les républicains d'extrême droite. Mais voilà, eux aussi, ils sont pour une simplification et donner de façon inconditionnelle parce que les non-recours aux droits ne leur conviennent pas, parce qu'ils sont aussi choqués par la grande misère, par les personnes à la rue, etc. Donc, il y a sans doute un tronc commun qu'on peut trouver à minima.
Oui, et puis il y a quand même une conscience d'une partie de la classe politique, y compris, alors j'irai peut-être pas jusqu'aux républicains, mais jusqu'au centre, qui a conscience qu'il y a un problème et de répartition des richesses et de pauvreté et d'inégalité sociale. Donc je pense que c'est un discours de toute façon qui est amené à évoluer. Et alors effectivement, on a des modèles différents. Si à la fin, le résultat est qu'on arrive à faire baisser le taux de pauvreté, qu'on rende un peu de dignité à des gens qui l'ont malheureusement perdu ou qui parfois n'ont jamais connu une vie normale, avec plein de guillemets à ça, mais tant mieux, tant mieux. Après, nous, effectivement, le modèle qu'on propose quand même, moi, j'aime bien cette idée quand même de le décorréler du travail, parce que c'est aussi une manière de repenser. J'ai un de mes collègues, il n'y a pas très longtemps, qui me disait je te pose une question si tu dois me citer deux choses les plus importantes pour toi dans la vie, mais tu ne me réponds pas, mais tu y penses. Donc, il me laisse réfléchir. Il me dit, dedans, il n'y a ni le travail, ni l'enrichissement personnel, hormis intellectuel. Et oui, évidemment, il y a des choses bien plus essentielles pour sa santé et sa santé mentale, et puis pour ce qu'on est, quoi. Donc, nous, on s'interroge aussi sur la société qu'on a bâtie et de comment on l'a bâtie, mais pour qui on l'a bâtie aussi. Parce qu'aujourd'hui, on participe tous collectivement à une société qui nous fait du mal quand même, sur une partie. Donc, c'est comment aussi on se dit, OK, l'essentiel, bah oui, c'est pas ça, c'est l'amour, c'est la famille, c'est le bien-être. Et normalement, tout ce qu'on produit devrait répondre à ces besoins fondamentaux qui sont ceux-là. Et en fait, non. Aujourd'hui, on produit quoi? De la valeur ajoutée? Pour qui? On sait où va cet argent. On sait qu'il enrichit une partie de la population, mais qui n'est pas nous. Collectivement, qui n'est pas nous, les 99%. Donc, c'est aussi remettre du sens à la vie dans tout ça.
D'ailleurs, il y a une littérature intéressante autour de les personnes très âgées, en fin de vie. Quand on leur demande, mais voilà, qu'est-ce qui... Alors, soit on leur pose la question, qu'est-ce que vous regrettez, ou qu'est-ce que vous auriez aimé, ou qu'est-ce que vous avez aimé. On retrouve évidemment... Alors, quelquefois, l'emploi... est cité, mais parce qu'il a été porteur d'épanouissement personnel, d'utilité avec les autres, de liens, de relations, etc. Sinon, non. En tout cas, c'est jamais l'argent, ça c'est sûr. Richesse en soi.
L'emploi en lui-même n'est pas forcément négatif. Et tant mieux si les gens ne le subissent pas et s'ils y trouvent même de la reconnaissance et du plaisir. Mais il faut aussi entendre qu'une partie de la population ne le vit pas de cette manière. Et même quand on a un travail qui nous plaît, on le subit tous à un moment donné, que ce soit dans les rythmes, dans voilà. Donc c'est comment aussi on retrouve du pouvoir finalement de choisir ce qu'on veut faire de sa vie et de ce qui nous apparaît essentiel.
Du coup, ce qui me vient en t'écoutant, c'est que finalement, pour garder un peu l'entrée politique, c'est que le revenu de base est en même temps un outil très libéral dans le sens où ça libère l'individu. Des contingences, on parlait de la pyramide de Maslow, de la nécessité de nourrir quand même certains besoins de base, c'est pour ça que ça s'appelle pour certains revenus de base. Et en même temps, c'est très social-démocrate, puisque ça apporte aussi une émancipation aux gens, alors on pourrait même dire communiste dans le sens mise en commun, quoi, puisqu'il y a une égalité. L'éthique ou la différence entre les individus peut se faire en plus. Par exemple, parler de la hache, etc., auquel on ne touche pas. Mais au moins, il y a cette forme d'égalité qui apporte un minimum de liberté. Et tout ça, moi, c'est le mot qui me vient. Alors, il y a le mot sens que tu as prononcé qui me semble très, très, très important. Quelle horreur de voir sa vie s'achever. Et se retourner en se rendant compte que notre vie n'a pas eu de sens.
Oui, mais même maintenant, avec la réforme des retraites, moi j'ai une trentaine d'années, même mes collègues du même âge se disent, mais en fait, on va bosser toute notre vie. C'est maintenant qu'il faut qu'on prenne le temps. Et donc, il y a aussi une multiplication des temps partiels, parce que les jeunes de notre âge veulent en profiter maintenant. Et plus tard, on sait qu'on ne pourra pas. Donc, il y a aussi ce renversement qui se fait. Alors là, pour le coup, avec la mauvaise nouvelle de l'allongement du travail et de la durée du travail.
Il y a une forme de résistance, en fait.
Oui, c'est ça, tout à fait. Et de prise de conscience, de dire, mais oh, En fait, moi, je travaille pour en profiter quand même. Et, oui. pour,
et
pour
voir ses enfants grandir, et s'occuper de ses parents, ou de faire des liens.
Et de voyager, et de... Voilà, tout à fait.
Mais ça revient beaucoup, le voyage oui. chez les gens. Autant changer d'air que rencontrer, que découvrir aussi d'autres façons de penser.
Complètement. Coup, voilà,
envie de shifter, envie de, voilà, de, d'autres choses, en tout cas.
Il faut voyager, c'est quand c'est possible. Il faut le faire le plus écologiquement possible, bien sûr, mais... Il faut se rencontrer, il faut se parler, et c'est comme ça qu'on voit des expérimentations du revenu universel ailleurs qui sont tout à fait pertinentes.
Oui, d'ailleurs, je vous renvoie sur le site revenudebase.info avec une superbe carte des expérimentations. Et prochainement, le podcast avec Faustine Balmel, que vous retrouverez en plus du site Radio Campus.
Oh
belle clôture.
Mais tiens, on fait des annonces comme ça.
Bah, comme ça, ça me vient comme ça. Si jamais les gens s'ennuient, ou mieux, si jamais ils ont envie d'un peu de peps, d'un peu d'espoir, voilà, plutôt que d'être toujours contre, ben on peut se battre pour.
Eh bien, écoute, hein, j'en suis ravi. Et vous allez parler aussi du revenu de base de Sam Altman?
On pourrait, il faudrait qu'on fasse une autre émission pour ça, parce qu'il y a plein de choses à dire sur l'IA, sur tout ça, mais là, ouais, tout de suite, en 3 secondes, non, je préfère m'arrêter sur « Allez, on va se battre pour ».
Ah, si bah oui.
Merci beaucoup, Max, pour tes musiques.
Mais avec plaisir, profitez-en, il vous reste 2 minutes pour parler. Après, il sera trop tard.
Bon, Faustine, un dernier mot sur ce que t'apporte ton engagement politique.
Déjà, je vais vous remercier pour l'invitation, Virginie et Max. C'était très agréable, ces discussions sur revenu universel, un sujet qui est vraiment essentiel. Et puis, oui, peut-être dire à tous ceux qui nous écoutent, osez vous engager, même pour des projets qui vous paraissent un peu fous. J'aime bien citer Léon Blum et le Front populaire de 36. Mmh. Quand ils imaginaient les congés payés, on les prenait pour des rêveurs et pour des fous.
Des fous et puis, gens allaient en vacances.
Exactement, mais quelle idée absurde. Et finalement, ils l'ont fait. Donc, le revenu universel, ce n'est pas une idée de fou, ce n'est pas une idée de rêveur. C'est quelque chose qui peut devenir très réel. Il suffit qu'on le décide ensemble.
Bon, Max, on va se faire un petit vote. Est-ce que tu es d'accord?
Ah bah écoute, moi, je n'ai rien à rajouter. Hein.
Bon, là, moi, je suis d'accord aussi. Bah, à l'unanimité, sachez, chers auditeurs, auditrices, que nous venons de voter pour un revenu de base universel, inconditionnel.
Dans ce studio.
Dans ce studio, voilà. On prend la décision, parce que de toute façon, c'est pour notre bien à tous. Donc, adjugé vendu.
Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine?
Oui, le mois prochain.
Ah oui, le mois prochain.
Bah, oui, je vois que t'es pressé, Max, de te revoir.
J'étais en train de me dire que l'invité était déjà dans le studio et qu'il allait patienter un mois, tu vois, c'est quand même...
On recevra gênant. Patrick Hesbrook, qui habite l'Anversart et qui a écrit 2 livres, dont un sur le revenu de base, avec une optique plus syndicaliste cette fois-ci.
Eh bien alors, rendez-vous le mois prochain. Merci beaucoup.
À bientôt tout le monde, bonne journée.
Et les podcasts, c'est disponible à partir de quand, alors? Tu sais un peu tout ça?
Alors, sur revenudebase.info, il faut compter une semaine après la sortie sur Radio Campus. Donc, dans une semaine, vous pouvez aller sur revenudebase.info et découvrir toutes nos émissions. On avait presque à 30 versions de Revenu de Base possibles, réalistes et réalisables en France.
Eh bien, écoute, voilà, t'as tout dit, c'est parfait.
À bientôt.
Pendant que crèvent des honnêtes gens avec leur môme, métro, boulot, dodo, ça va bien un moment. Les hommes ne sont pas des machines que l'on confine. Je suis essentiel. Je suis qu'un petit commerçant au cœur du centre-ville. Je suis libraire, je suis fleuriste, café ou restaurant. Mes clients viennent me voir, je les connais souvent. Je les conseille, je les comprends, je suis essentiel. Vous pouvez me croire, je suis essentiel.